Bonjour à toutes et toutes et bienvenue dans ce podcast Voyage dans le temps, mythe ou réalité. Je vais vous parler aujourd'hui de reconstitution historique. Fermez les yeux et imaginez. Par une belle après-midi d'été, au cours d'une balade qui vous permet de longer un cours d'eau et d'admirer des maisons mérovingiennes, vous apercevez au loin des enfants en train de courir et jouer avec des bâtons. Derrière eux, vêtue d'une cotte en laine bleu clair et joliment parée de fibules aviformes, se tient une jeune femme occupée au tissage d'un galon. À ses côtés, portant des chaussures en cuir, un pantalon en laine rouge et une chemise en lin écru, un homme, scramassax en main, effectue des mouvements de taille et d'estoc contre un adversaire invisible. Un peu plus loin, des murmures de conversation vous parviennent et vous entendez également le résonnement d'un marteau sur une enclume. La fumée qui s'échappe du foyer extérieur sur lequel sont posés houles et chaudrons vous fait plisser les yeux. Cette scène de la vie quotidienne que vous venez d'observer n'est pas la seule à être offerte à votre vue. Outre le forgeron, vous devinez un peu plus loin un rassemblement de guerriers. Et, sur votre gauche, un potier est en train de faire émerger, comme par magie, un pot de sa boule d'argile. Malgré les apparences, vous n'êtes pas tombé dans une faille spatio-temporelle. En réalité, vous vous trouvez au cœur d'un parc archéologique en Picardie. En vous retournant, vous constatez en effet que d'autres visiteurs, revêtant baskets, jeans et t-shirts, vous suivent. Cette immersion dans le passé lointain de l'époque mérovingienne n'est pas permise par l'invention d'une quelconque machine à remonter le temps, mais par la tenue de diverses manifestations de reconstitution historique, et notamment les festivals d'histoire vivante. Plus précisément, si le Moyen-Âge est souvent associé aujourd'hui aux fêtes médiévales, d'autres formes d'expression et de présentation de l'histoire existent. L'histoire vivante est l'une d'entre elles. Pouvant être appréhendée comme une mise en vie corporelle et matérielle d'un passé révolu, celle-ci se décline selon plusieurs axes. D'abord, la reconstitution historique, qui consiste à représenter, à l'aide de la culture matérielle, une personne ayant vécu à une époque passée. Ensuite, les arts martiaux historiques européens. Cette pratique physique et culturelle, voire patrimoniale, cherche à retrouver des gestes techniques et des savoir-faire martiaux historiquement situés. C'est, par exemple, le cas des duels à l'épée, expérimentés à l'aide de protections contemporaines, telles les masques d'escrime. Enfin, la troisième forme que peut prendre l'histoire vivante est façonnée par un ensemble d'actions de médiation culturelle, prenant place au cœur des parcs archéologiques notamment. Si ces activités ne se limitent pas à une seule période, le Moyen-Âge est probablement celle qui marque le plus les esprits. En effet, la multiplication d'activités de loisirs évoquant ou rappelant l'époque médiévale, sous forme ludique, culturelle ou encore sportive, s'inscrit dans un goût du Moyen-Âge, tel que l'évoque Christian Amalvi, et témoigne de la vitalité du médiévalisme contemporain. Celui-ci peut être compris comme les différentes formes de réception du Moyen-Âge aujourd'hui. L'histoire vivante médiévale n'échappe pas à cette tendance. Au-delà, le foisonnement des fêtes médiévales durant l'été participe aussi à donner à voir des fragments d'un passé révolu. Cependant, à la différence des fêtes médiévales, les rassemblements de reconstitution historique du Moyen-Âge mettent l'accent sur une recherche d'authenticité. Alors que le médiéval fantastique peut faire irruption sur les fêtes médiévales qui deviennent de fait des fêtes de l'imaginaire du Moyen-Âge, la fidélité vis-à-vis des sources historiques est un leitmotiv des reconstituteurs. Pour autant, malgré ce vœu pieux, des écarts entre ce que l'on connaît de l'histoire, ce que l'on en ignore et ce qui est mis en vie le temps d'un week-end dans un cadre ludique existent. L'immersion dans le passé est effective, mais elle demeure nécessairement partielle. Avant de poursuivre, je voudrais faire un petit détour par quelques précisions sociologiques et méthodologiques. Afin de saisir les modalités de ce voyage au Moyen-Âge, une approche sociologique des reconstitutions historiques médiévales a été mise en place entre 2009 et 2019. Celle-ci consistait à comprendre les formes d'expression de ce loisir, aussi bien que son fonctionnement. L'enjeu était de montrer qu'il existe d'autres pratiques du médiévalisme consistant à mettre en vie des savoir-faire passés que celles exposées au sein des fêtes médiévales. De fait, la reconstitution est une activité ludique et culturelle qui s'appuie sur une communauté de pratiquants. La mise au jour des normes et des valeurs inhérentes à la reconstitution a constitué l'un des principaux angles d'analyse. Dans l'objectif d'étudier le groupe social formé par les pratiquants de reconstitution, une méthode ethnographique a été mise en place. Ainsi, une quarantaine d'observations participantes ont été menées. Pour le chercheur, il s'agit de prendre part à la vie du groupe, de vivre avec lui, de participer à ses activités quotidiennes pour le comprendre de l'intérieur tout en ayant un regard distancié permettant de l'analyse des actions observées et des discours recueillis. Cela sous-entend ici que j'étais moi-même reconstitutrice et que j'avais pour ce faire un costume mérovingien. En plus de ces observations, des entretiens ont été conduits avec différents acteurs de ce loisir, reconstituteurs, organisateurs d'événements, responsables associatifs, etc. En complément de cette approche qualitative, une étude quantitative a permis le recueil de plus de 300 questionnaires entre 2010 et 2015. Cette méthodologie choisie pour le recueil de données invite à appréhender la reconstitution comme un loisir contemporain qui permet certes une évasion, mais pas un voyage dans le temps. En effet, les événements de reconstitution, quels qu'ils soient, demeurent soumis à des habitudes de notre époque. Par exemple, se restaurer 3 fois par jour, fumer, prendre des photographies, etc. De la même manière, l'état d'esprit des reconstituteurs ne peut approcher celui d'un homme ou d'une femme ayant vécu il y a plus de 1000 ans. Les mentalités restent nécessairement celles de personnes du 21e siècle. Enfin, dernier indice qui atteste du fait que le voyage n'est pas réellement effectif, la présence du public. La reconstitution est aussi une activité de médiation culturelle et historique et, à cet égard, le surgissement de visiteurs vêtus de jeans et baskets rompt nécessairement le cadre médiéval mis en place. Ainsi, même si la réponse à la question initialement posée a déjà été donnée, le voyage dans le temps est un mythe et non une réalité, je souhaiterais malgré tout montrer ici que si ce déplacement temporel n'est pas réel, il n'en reste pas moins que la reconstitution entraîne une modification du rapport au temps afin d'enclencher l'immersion dans le passé. Tout d'abord, les rencontres de reconstitution se déclinent en plusieurs formes. Elles peuvent être ouvertes au public et avoir pour objectif la médiation. Il peut ainsi s'agir de grandes manifestations estivales mettant en avant des dimensions festives et ou culturelles, par exemple les festivals d'histoire vivante, mais aussi de présentations auprès des scolaires ou dans un cadre muséal. Les reconstituteurs peuvent être présents sur des fêtes médiévales, même s'ils ne reconnaissent pas celles-ci comme faisant partie du cadre de l'histoire vivante. D'autres rencontres sont nommées off, sans public, elles ont pour but de renforcer la cohésion du groupe et de faciliter l'immersion dans le passé. Quel que soit le type de manifestation, un désir de transmission de connaissances est souvent présent. L'immersion est le processus recherché par les reconstituteurs lorsque le public est parti ou lors d'événements off. L'enjeu est de produire une rupture avec le quotidien à travers une expérience sensorielle et corporelle. Ce processus débute avec la mise en costume des participants et, dès lors, les objets modernes sont rangés hors de la vue. Il se poursuit tout au long du week-end à travers la cuisine et les repas, les activités physiques pratiquées, par exemple la soule, le duel, etc., l'éveillé au coin du feu, etc. Plus précisément, 2 formes d'immersion peuvent être relevées. La première consiste à reproduire des savoir-faire issus d'un passé révolu pour mettre en vie diverses formes d'artisanat. Ainsi, la poterie, la forge, etc. sont autant de manières d'approcher le Moyen-Âge par les techniques et à travers la matérialité. L'objectif des reconstituteurs est alors de créer un cadre visant à vivre par corps l'histoire. La seconde modalité d'immersion est celle formée par les combats. Ces activités dites militaires sortent bien souvent du contexte historique pour entrer dans la fiction. Les gestes ne reflètent pas ceux de l'époque, par exemple les coups d'estoc sont interdits dans les mêlées afin de ne pas blesser son adversaire. Les reconstituteurs recherchent la production d'émotions fortes, telles l'adrénaline au début d'un combat, ressentie uniquement lors des affrontements armés. Un cadre ludique, détaché de l'histoire, est ainsi créé, favorisant une autre façon de s'immerger dans un passé ici réinventé. Ces 2 modalités d'immersion se complètent. L'immersion recherchée et affichée permet l'évasion en dehors du cadre contemporain de la vie quotidienne. Outre l'usage de la matérialité, la création d'une triple temporalité au cours des manifestations, articulant conjointement le passé, le présent et le futur, renforce le sentiment d'un déplacement hors du temps. Au cours des événements de reconstitution, 3 temporalités sont ainsi mêlées. Cet enchâssement permet de sortir du cadre quotidien pour voyager dans un autre temps. En premier lieu, le temps présent est bien entendu celui dans lequel se déroulent les rencontres. Il est encadré par un ensemble de rites qui permettent aux reconstituteurs d'opérer une rupture avec le temps quotidien à la manière d'un départ en vacances. Par exemple, le fait de déplacer sa voiture hors du champ de vision du campement de reconstitution, de revêtir son costume, de ranger son téléphone portable, sont autant d'actes signifiants visant à créer un nouvel espace-temps. La communauté des pratiquants expérimente ce cadre qui permet l'immersion. Le rythme des journées suit celui du soleil et le passage du temps n'est plus marqué par les changements d'heure mais par les différents moments de la journée, matinée, après-midi, soirée, nuit. Chacun de ceux-ci correspond généralement à des activités spécifiques, préparation du repas du midi, pratique physique, repas en commun autour du feu, etc. Au-delà, le temps présent peut aussi être compris comme un temps de jeu. Des règles sont données afin d'organiser le cadre de la rencontre et de permettre la création d'un monde social prenant un nouveau sens, celui de la mise en vie du passé. À titre d'illustration, les règlements imposés pour la participation à un campement mettent l'accent sur la nécessaire conformité des costumes vis-à-vis des sources historiques ou archéologiques, mais aussi sur l'obligation de cacher les objets contemporains. L'objectif recherché est l'immersion en ce que celle-ci mène à la production de fun. Outre la dimension patrimoniale, les reconstituteurs recherchent aussi le plaisir et l'amusement lorsqu'ils revêtent leurs costumes. Ce présent est donc un temps festif. Les manifestations de reconstitution impliquent un style de vie différent de celui du quotidien, dans lequel l'évasion devient synonyme de fête. C'est un moment d'exception qui consiste à profiter de l'instant présent et des retrouvailles entre amis. Ainsi, les repas sont autant d'occasions de profiter d'une bonne chère et les soirées sont constituées de dégustations de boissons alcoolisées ou non, de chants, d'histoires de reconstitution, etc. En d'autres termes, les reconstituteurs conçoivent le temps présent comme un moyen de s'évader de leur quotidien à travers la mise en place d'un cadre festif et ludique. Une forme d'hédonisme est bien présente, le but de ces week-ends étant de sortir du temps quotidien à travers le jeu de la reconstitution et son contexte festif. Si le temps présent est celui du jeu et de la fête, les reconstituteurs se réfèrent aussi, dans leurs discours et leurs actions, à un temps passé. Évidemment, celui de l'histoire. Donc ce temps est à la fois lointain, le temps long, et proche, qui est davantage celui de l'enfance. Tout d'abord, la reconstitution implique une pensée du temps historique, et en l'occurrence médiévale. Cette conception du temps est rendue visible par la confection puis le port de costumes, autrement dit par la matérialité qui est l'objet même de cette activité et autorise le surgissement du passé dans le présent. Ce temps long est aussi perceptible à travers les discours énoncés qui permettent un rapprochement avec le passé. Ainsi, les reconstituteurs évoquent le désir de retrouver des techniques d'autrefois, d'avant, de leurs ancêtres, etc. L'objectif est de s'inscrire dans une généalogie et une filiation avec la période médiévale afin de retrouver une forme d'authenticité des gestes et techniques recréés. Pour autant, celle-ci n'est jamais effective et apparaît davantage comme étant une construction contemporaine. Un imaginaire médiéval se laisse alors deviner et cette fois, le présent du quotidien du XXIe siècle refait surface. Pouvant être compris comme un ensemble de ressources symboliques, l'imaginaire du Moyen-Âge participe à organiser le cadre de l'activité en humanisant le passé et en le rendant plus proche. Les reconstituteurs identifient quelquefois cet apport du présent dans le passé, notamment lorsqu'ils évoquent les limites des combats. Davantage un imaginaire de la guerre qu'une reconstitution fidèle. Mais le passé tel qu'il est appréhendé est aussi plus proche. C'est dorénavant celui de l'enfance révolue dont je vais vous parler. Cette temporalité est valorisée en ce qu'elle fait référence à un âge d'or, un temps qui autorisait les jeux et les déguisements. Autant d'éléments que les reconstituteurs retrouvent dans leur pratique actuelle. Il s'agit dès lors de raviver au cœur du loisir des attraits de l'enfance. Les combats rappellent les jeux de bâton et d'épée, le port du costume, le désir d'évasion dans d'autres univers, etc. Ce temps passé de l'enfance est aussi celui qui rappelle à la mémoire des curiosités de jeunesse, pour le Moyen-Âge et son patrimoine par exemple. Dès lors, la mise en vie du passé et les expérimentations corporelles menées réactualisent des pratiques et intérêts enfantins dans le contexte d'un loisir d'adulte. Ainsi, le voyage dans le passé des reconstituteurs est à la fois éloigné dans le temps, une entrée dans l'histoire par la matérialité mais aussi par les discours, et seulement distant de quelques années à travers les références aux jeux et pratiques de l'enfance. Toutefois, ce déploiement temporel ne se limite pas au passé et la reconstitution invite également à effectuer des excursions dans le futur. Le troisième temps du voyage est donc celui de l'avenir. En dehors d'un dépaysement associé au passé, la reconstitution invite également à penser le futur. Ce qui n'est pas encore advenu est d'abord envisagé selon un angle mélancolique. Comme dans la poésie baudelairienne, la mélancolie qui transparaît dans les discours des reconstituteurs traduit une certaine tristesse et une angoisse latente, en particulier vis-à-vis d'un temps à venir. Suite au constat du temps qui passe et d'un monde qui change et qui préoccupe, les recréations de l'histoire donnent du sens au présent et permettent d'envisager l'avenir autrement. La reconstitution n'est ni un rejet du présent, ni une manière de glorifier le passé. Elle est plutôt un outil permettant de penser l'avenir. Pour ce faire, l'histoire est mobilisée au présent à travers des savoir-faire recréés à destination d'autres générations. Par exemple, les enfants des reconstituteurs, les scolaires. Dans cette logique, le futur est un temps essentiel pour les reconstituteurs car il permet d'envisager la transmission des connaissances sur un temps long, au sein de la communauté, mais aussi en dehors. L'enjeu est alors de proposer une autre vision de l'histoire, loin des clichés. C'est par exemple le cas des combats à l'épée qui, historiquement parlant, ne duraient que quelques secondes, contrairement à ce que le cinéma a pu en montrer. Par ailleurs, le temps à venir apparaît également comme étant nécessaire car il permet de proposer une façon alternative de présenter l'histoire. Il s'agit, pour les reconstituteurs, de donner à voir un passé vivant qui ne soit pas figé dans des vitrines de musées ou des ouvrages théoriques. Les pratiquants cherchent à mettre en lumière un idéal, celui d'un passé humanisé, rendu sensible par diverses formes d'expérimentation. De la sorte, la reconstitution induit une projection dans l'avenir, à la fois lointain, celui du temps qui passe et qui transforme le monde, et plus proche, celui de la transmission et des échanges au sein de la communauté des reconstituteurs. Ainsi, le voyage dans le temps de la reconstitution est triple. Il débute par une fête au présent, avant de faire un détour par le passé à l'histoire, puis il conduit vers l'avenir, à déjouer ou à construire. Pour conclure, si la reconstitution n'est pas une échappatoire au présent pour conduire ses pratiquants dans un passé révolu, elle est néanmoins une source d'évasion. Le dépaysement temporel est permis par un temps qui devient, finalement, circulaire. Passé, présent et futur s'entrecroisent au cours d'un même week-end. Un autre temps, alternatif, est produit. Uchronique, il facilite le voyage temporel, de l'histoire médiévale au passé de l'enfance, en passant par le présent de l'expérience ludique et le futur, à la fois mélancolique et monde des possibles. Cette uchronie défie la pensée contemporaine d'un temps linéaire en mêlant trois temporalités initialement distinctes. Plus spécifiquement, ce temps alternatif bâti au cours des manifestations de reconstitution, à travers les actes et les discours, se positionne hors du temps quotidien et devient donc une achronie. Dès lors, articulant la création d'un temps circulaire, uchronique, avec le désir de se situer en dehors du temps habituel, achronique, les pratiques de reconstitution historique peuvent être conçues comme autant de bulles temporelles permettant le voyage d'une époque à une autre au sein d'une même temporalité, celle du loisir. Ainsi, contrairement aux apparences, les reconstituteurs ne voyagent pas dans le temps à travers leurs pratiques de loisir, car ils ne cherchent pas à quitter le présent. En revanche, ils expérimentent d'autres temporalités grâce à l'immersion et la création d'un nouveau monde social, jouant ainsi avec le temps. Ainsi s'achève notre voyage temporel dans le passé. J'espère que ce dépaysement au Moyen-Âge vous aura plu.